On va commencer par le mensonge, parce que la démagogie commence toujours par du mensonge et de la tromperie. Logique, c'est essentiel que les gens soient mal informés et croient des trucs faux, croient surtout les trucs qui vous arrangent, ça facilite énormément la manipulation. En gros, le public ne pourra pas prendre de bonnes décisions s'il est mal informé. Du coup, parlons un peu du mensonge. Tout le monde sait que les politiciens mentent, mais on n'analyse pas toujours comment. Généralement, quand on parle de mensonge en politique, on pense spontanément aux gros menteurs et grosses menteuses, les Sarkozy, Valls, Macron, Le Pen, Trump, etc. Tous ces gens qui mentent comme ils respirent, de façon hyper évidente et décomplexée, et ça se voit. Ceux-là peuvent se permettre de mentir aussi ouvertement parce que leur base électorale est plus fanatisée que les autres et continuent de les suivre malgré leurs mensonges, mais ce serait vraiment une grosse erreur d'analyse de croire que ce seraient les seuls à mentir, c'est juste les plus visibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'ensemble de la classe politique qui ment. En fait, la plupart des politiciens et politiciennes évitent de mentir de façon aussi évidente, parce qu'ils peuvent pas se le permettre, mais tous mentent quand même de façon plus subtile et détournée. Déjà, au minimum, ils sont tous obligés de mentir sur leurs intentions et leurs motivations, vu que, quel que soit le parti ou la personne, leur but c'est toujours de se servir au maximum et de servir leurs potes, et qui savent à l'avance qu'ils feront une politique que l'écrasante majorité de la population rejettera, ils ne peuvent évidemment pas avouer tout ça publiquement, sinon ils ne seraient jamais élus. Donc, c'est super important pour eux de passer pour des gens qui ont des convictions et qui seraient motivés par leurs convictions plutôt que par l'appât du gain, et ils vont faire beaucoup d'efforts pour ça, pour nous donner l'impression qu'ils croient en ce qu'ils disent. Le mensonge commence toujours dans l'opposition, parce que les politiciens et politiciennes commencent leur carrière dans l'opposition. Or, si vous êtes dans l'opposition et que vous voulez être élu, c'est important de faire croire que vous avez l'intention de faire une politique différente de ce que fait la majorité au pouvoir actuellement. La politique menée à un moment donné est toujours impopulaire, on le sait, et les politiciens, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, le savent aussi. Ils sont tout à fait conscients de ça, et ils sont tout à fait conscients aussi de pourquoi cette politique est impopulaire. Du coup, quand on est dans l'opposition, c'est important de faire croire qu'on n'est pas d'accord avec ce que fait la majorité au pouvoir, et qu'une fois au pouvoir, on mènera une politique différente de ce qui se fait actuellement, même si c'est évidemment faux, et que l'ensemble des politiciens et politiciennes ont toujours l'intention de faire à peu près la même chose quand ils seront élus, mais l'important c'est que la population le croit. Et je crois qu'un truc qui illustre bien ça, et qui illustre bien à quel point tout le monde ment, c'est le thème du changement, et à quel point le thème du changement est un argument électoral en soi, repris par tous les politiciens du monde tout le temps. Promettre le changement, c'est un grand classique, un thème omniprésent dans énormément de campagnes électorales. L'exemple le plus récent et proche de nous en France, c'est évidemment « Le changement, c'est maintenant » de François Hollande en 2012, qui était carrément son principal slogan de campagne, et en fait à peu près le seul truc que les gens ont retenu de lui du coup, mais c'est pas la première fois que le Parti Socialiste promet du changement. En 2009, pour les européennes par exemple, leur slogan c'était « Changer l'Europe maintenant ». On a eu aussi, en 2007, le slogan « Pour que ça change fort », un slogan de Ségolène Royal pour la présidentielle. Et puis si on remonte un peu plus, Lionel Jospin, en 1995, promettait déjà d'être le président du vrai changement, et puis en 2002, rebelote, le même promettait de « présider autrement », ce qui, encore une fois, veut dire qu'on va changer par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais le Parti Socialiste n'est pas du tout le seul à promettre le changement tout le temps. Hein. François Bayrou, en 2002, par exemple, promettait lui aussi la relève, le changement, et Eva Joly, en 2012, un de ses slogans, c'était « l'écologie, le vrai changement ». Comme quoi tout le monde en politique aime le changement, il y en a même qui osent promettre le changement alors que c'est leur équipe qui est aux manettes. Sarkozy par exemple qui avait promis la rupture en 2007, eh bien la rupture c'est juste un synonyme de changement alors que le mec était ministre depuis des années. Même chose en 2017, Macron tout le monde nous l'a présenté comme un homme neuf qui ferait de la politique autrement alors qu'il était issu de l'équipe Hollande et que son parti En Marche recyclait un bon paquet d'opportunistes du PS et de l'UMP. Donc, promettre du changement, c'est un grand classique, et pas seulement en France, hein. Au Royaume-Uni, le conservateur David Cameron, en 2005, son slogan c'était « Vote for change », donc « Voter pour le changement ». Au Canada, en 2015, il y a deux partis différents qui promettaient un changement pour la même élection, le NPD, hein, avec le slogan « Ensemble pour le changement », et puis le Parti libéral, « Il est temps de changer ensemble ». Aux États-Unis, Bill Clinton, en 1992, un de ses slogans c'était « For people ». For a change, donc pour le peuple, pour changer, et autre slogan pendant la même campagne, It's time to change America, il est temps de changer l'Amérique. Barack Obama en 2008, l'un de ses slogans officiels c'était Change we can believe in, Autrement dit, le changement auquel on peut croire, voire même change tout court, donc juste le changement. Et Mitt Romney, l'adversaire de Barack Obama en 2012, donc 4 ans plus tard, real change from day one, donc le vrai changement dès le premier jour. Et ça, c'est juste quelques exemples en vrac. Donc, ce thème du changement, c'est un classique international et indémodable, parce que ça permet à l'opposition de capitaliser à fond sur l'impopularité de la majorité au pouvoir à un moment donné. Vous aimez pas l'équipe au pouvoir? Eh bien, nous non plus, et le meilleur moyen de vous en débarrasser, c'est de voter pour nous, et promis, une fois au pouvoir, on fera pas la même chose qu'eux. Inutile de dire qu'aucun de ces gens-là qui avaient promis un changement ont changé quoi que ce soit une fois aux manettes, et qu'en pratique, ils ont tous mené à peu près la même politique que leurs prédécesseurs. Mais bon, quand on est dans l'opposition, c'est logique de capitaliser sur l'impopularité de la majorité actuelle, et de faire croire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait. Elle est impopulaire, ce serait vraiment bête de pas en profiter. Bien sûr, il faut que ces promesses de changement aient l'air crédibles, sinon ça sert à rien. Du coup, l'opposition élue va passer pas mal de temps à faire semblant de s'opposer à la politique menée par la majorité au pouvoir, et faire semblant de critiquer avec force cette politique, en surjouant souvent l'indignation devant les mesures les plus impopulaires. Même si en pratique ils s'en foutent, le but est de se donner un air crédible, de donner à l'électorat l'impression qu'on est vraiment contre et vraiment indigné par la politique injuste menée. Et c'est assez facile de faire une critique crédible, parce qu'ils savent tout à fait ce qui est injuste dans la politique menée, mais ça veut pas dire qu'ils ont vraiment l'intention de faire une politique différente quand ils seront au pouvoir. C'est juste que c'est logique pour l'opposition de tenter de profiter au maximum de l'impopularité du pouvoir en place. Par exemple, quand la droite officielle est au pouvoir et attaque les droits des travailleurs, ou baisse les impôts des riches, c'est forcément impopulaire, et la gauche entre guillemets électorale, dans l'opposition donc, va pouvoir dénoncer cette politique. Elle dénonce une politique qui est faite uniquement pour les riches, ce qui est vrai, une politique qui précarise encore les plus pauvres, ce qui est vrai aussi, et va expliquer que c'est pas en augmentant le temps de travail ou en attaquant le droit du travail qu'on va résoudre le problème du chômage, etc. Et tout ça est vrai évidemment, ces critiques sont fondées et donc ont l'air crédibles. Souvent l'opposition va monter sur ses grands chevaux et utiliser des mots très forts pour montrer à quel point ils sont pas d'accord. Par exemple sur la question de l'Aquarius, la gauche dénonce l'attitude irresponsable et inacceptable de l'exécutif sur le refus d'accueillir l'Aquarius. Autre exemple, la gauche dénonce le scandale de l'évacuation des manifestations non violentes par la police, etc. Donc tous ces termes sont très forts, on parle de scandale, d'attitude irresponsable, on entend aussi souvent faute politique, politique destructrice, trahison, etc. Des mots extrêmement forts pour montrer à quel point on n'est pas d'accord, et tout ça est généralement servi par une attitude théâtrale, un ton de voix, une gestuelle, bref, un jeu d'acteurs et d'actrices qui vise à faire croire que vraiment vous êtes choqués et indignés par ce que fait le gouvernement. Et certains sont très bons d'ailleurs à ça et arrivent à avoir l'air très crédibles dans leur prétendue dénonciation. Prenez François Ruffin par exemple, un mec qui est assez populaire à gauche aujourd'hui, il a vraiment l'air d'y croire. Par exemple, en octobre 2018, quand la majorité LREM au pouvoir rejette une proposition de loi qui visait à améliorer un peu la prise en charge des élèves en situation de handicap, François Ruffin dénonce carrément, je cite, « un vote qui vous collera à la peau comme une infamie ». Un peu plus tard, en février 2019, pendant une séance de questions au gouvernement, voilà le même François Ruffin tellement écœuré des mensonges de la Macronie qu'il se sent obligé de sortir de la séance car il avait besoin de prendre, je cite, « un gros bol d'air face à tous ces mensonges, le pauvre ». Et puis en septembre, lors d'une audition à l'assemblée du PDG de Total, François Ruffin lui assène « vous préparez un monde de merde pour nos enfants ». Donc les mots qu'il utilise sont à chaque fois très forts, voilà quelqu'un qui a l'air authentiquement choqué et indigné de la politique du gouvernement et de la majorité, indigné du comportement des multinationales qui polluent, voilà quelqu'un à qui tout ça tient à cœur. Sauf que, ça ne l'empêche pas dans le même temps de s'afficher tout sourire avec des députés de la majorité, eux aussi tout sourire, dans une sorte de blague, tentative de com, second degré, autodérision minable, où, je le cite, il offre des boules quies à des députés de la majorité qui lui avaient dit de, entre guillemets, baisser d'un ton, monsieur Ruffin. Le mec publie donc sur son compte Twitter une photo où lui et deux députés de la majorité sont tout sourire avec leur boule quies bien en évidence pour la blague. Alors on me dira que c'est de l'autodérision, de l'humour, tout ça, et qu'il faut pas y accorder trop d'importance, mais je ne suis pas d'accord. Ce que ça nous dit en vrai, c'est que le mec ça le gêne pas de poser tout sourire, tout fier de sa blague avec des gens responsables d'une politique qu'il sait ultra violente et criminelle contre les pauvres et les personnes vulnérables, contre les sans-papiers, etc. des gens crèvent, mais pour François Ruffin, ça a limite l'air d'être un jeu. Tout ça n'a pas vraiment d'importance, on peut se fendre la pêche avec les responsables. Non seulement c'est indécent, mais c'est en plus absolument contradictoire avec le fait d'accuser les mêmes personnes d'infamie pour leur politique dégueulasse. C'est absolument contradictoire avec la fois où il prétendait qu'il était tellement écœuré par les mensonges des macronistes qu'il en a été obligé de quitter la séance et d'aller prendre l'air, selon ses propres mots. Bref, ce genre de coup de com' et de blague, ça contredit totalement sa prétendue indignation, et ça montre que cette indignation était juste une posture, qu'elle était complètement simulée et surjouée, et qu'il y croit pas une seule seconde. Et là, c'est juste une bourde de Ruffin, hein, pas la seule d'ailleurs, où il trahit son absence de conviction pour un mauvais coup de com'. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, parce qu'il illustre bien le problème, mais les autres politiciens et politiciennes, c'est pareil évidemment, même si publiquement ils s'indignent et ils dénoncent leurs prétendus adversaires au pouvoir, ça ne dit pas que le lendemain ils vont pas trinquer ensemble et rigoler ensemble de telles bonnes blagues qu'un tel a faites à la tribune. Donc il faut bien comprendre que tout ça, cette indignation, ces dénonciations, ces coups de colère, ces trémolos dans la voix, ce n'est que du théâtre et du jeu d'acteur. Alors, ceci dit, l'idée c'est quand même de rendre ces promesses et ces mensonges les plus crédibles possibles. Il faut que le public croie que vous avez vraiment l'intention de faire ce que vous promettez de faire, sinon ça sert à rien. Et quand vous êtes dans l'opposition, une autre technique très efficace pour faire croire que vous avez vraiment l'intention de mener une politique différente de celle actuellement menée, c'est carrément de proposer des lois dont vous ne voulez pas vraiment, mais que la population voudrait, comme le non-cumul des mandats, des lois pour plus de transparence dans la vie politique, etc., mais que vous savez que la majorité au pouvoir va forcément rejeter parce qu'elles ne vont pas dans son intérêt non plus. Comme ça, vous pouvez vous indigner pour pas cher que la majorité au pouvoir rejette une loi que pourtant le peuple voudrait, mais que vous, vous essayez courageusement de faire passer malgré tout. Exemple, fin 2010, le Parti Socialiste fait une proposition de loi pour interdire le cumul des mandats, proposition présentée par de nombreux sénateurs et sénatrices et députés du PS. Genre vraiment, le cumul on est contre, voyez, comme l'ensemble de la population. Bon, la proposition en question est évidemment rejetée par la droite majoritaire, mais le PS dans l'opposition avait quand même essayé, fait tout ce qui était en son pouvoir pour lutter contre le cumul des mandats. Preuve que le PS était du côté du peuple, et que c'était juste la droite égoïste qui l'empêchait de faire des lois que le peuple voulait. Cette promesse d'un cumul des mandats est même ensuite devenue un des principaux arguments de campagne pour François Hollande en 2012. Sauf que, on connaît la suite, ils l'ont évidemment pas fait quand ils sont arrivés au pouvoir. Ils l'ont d'abord repoussé à 2017, dans un premier temps, alors que le non-cumul était en théorie promis dès 2012, avec l'intention de le re-repousser ensuite à plus tard et à la cinglingla. Donc, c'est pas parce qu'on fait des propositions de loi dans un sens quand on n'a pas le pouvoir qu'on a véritablement l'intention de faire ces lois quand on l'aura. En fait, le PS nous a fait le coup plein de fois quand il était dans l'opposition, il a fait notamment plusieurs fois des propositions de loi pour le droit de vote des étrangers. Par exemple, fin 2002, alors qu'il sortait de 5 années de pouvoir et aurait pu le faire à ce moment-là, mais bon, on n'est pas à ça près. Et puis, une autre proposition en 2011, pareil pour le droit de vote des étrangers. Là aussi, ces deux propositions ont évidemment été rejetées par la droite au pouvoir, et là aussi, le PS ne l'a absolument pas fait quand il est revenu au pouvoir en 2012. D'ailleurs, ce droit de vote des étrangers, c'est un truc que le PS promet régulièrement depuis 1981, donc ça fait presque 40 ans, sans jamais le faire quand ils en ont l'occasion. Donc c'est pas parce qu'un parti promet un truc régulièrement et depuis longtemps qu'il a vraiment l'intention de le faire. Je pense par exemple au Front National qui promet depuis des années des référendums d'initiative populaire, ça n'a pas plus de valeur que ça. Et puis là j'ai cité que le PS parce que c'est des exemples les plus récents que j'ai trouvés, et qui sont encore frais dans ma mémoire vu qu'on sort de 5 ans de PS au pouvoir, mais des gens de tous les partis peuvent faire ça évidemment. Autre exemple, le Front National, qui avait toujours critiqué le cumul des mandats dans les autres partis depuis des décennies, tant qu'il restait plus ou moins exclu des institutions, avec des mots souvent très durs, en dénonçant par exemple des élus à temps partiel. Et en 2013, ces deux seuls députés d'alors, Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard, avaient même voté la loi du PS contre le cumul, en regrettant même qu'elle ne s'applique qu'en 2017, sous-entendu, si c'était nous au pouvoir, on le ferait tout de suite, hein, le non-cumul. Donc le FN, très engagé contre le cumul, vous voyez. Eh bien, ça va certainement vous surprendre, mais le parti s'est mis à changer subitement de discours dès l'année suivante, en 2014, dès qu'il a été en position d'avoir des élus cumulards en fait, et Marine Le Pen avait même dit à ce moment-là qu'il s'appliquerait le non-cumul des mandats quand les autres partis se l'appliqueront eux aussi, ce qui est en fait exactement la même excuse qu'utilisent tous les autres partis qui se prétendent opposés au cumul, mais qui le pratiquent quand même. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on promet très fort quelque chose et qu'on dénonce une situation avec des mots très durs qu'on y croit vraiment et qu'on a vraiment l'intention de faire ce qu'on promet. Et même le fait de faire des propositions de loi ne prouve absolument pas que vous êtes sincère. Quand on est dans l'opposition, on peut parfaitement faire des propositions de loi dont on ne veut pas vraiment, en sachant qu'elles seront rejetées par la majorité au pouvoir, histoire de se donner un peu de crédibilité pour pas cher parce que, en apparence, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que ça devienne réalité, et c'est juste les gens au pouvoir actuellement qui vous en ont empêché parce qu'ils sont égoïstes. Et puis, si vous arrivez un jour au pouvoir, soit les gens auront oublié, soit on trouvera toujours des excuses ou des prétextes pour ne pas le faire ou pour le faire à minima.